Europe 1.
Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Franck Ferrand nous propose aujourd'hui une émission dépaysante. Il nous plonge dans le Japon ultra raffiné du XIIe siècle. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je n'ai eu pour me mettre au diapason de cette belle époque Heian, et nous allons en parler dans le détail dans un instant, je n'ai eu qu'à me laisser bercer par la prose limpide de Didier Decoin. Son roman « Le bureau des jardins et des étangs » est une sorte d'antidote aux rudesses de l'époque. Vous avez sans doute pas mal entendu parler déjà de ce roman, mais on ne se lasse pas de l'atmosphère tellement raffinée qu'il nous permet de découvrir. Didier Decoin, vous l'aurez compris, est notre invité cet après-midi.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle, nous allons voyager au Japon,
oui,
cet après-midi.
Avec deux geishas pour guide, Vanessa Za et Lorena Martin. Leur nom ne sonne peut-être pas très nippon.
Pas tout à fait.
Ne vous y fiez pas. Le Kansai et notamment la superbe Kyoto n'ont aucun secret pour elles. Pour le moment, je vous propose de découvrir ensemble ce à quoi ressemblait le Japon du XIIe siècle.
Cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand.
Quelques mois, j'ai eu la chance de découvrir une des régions du Japon les plus chargées d'histoire, le Kansai, et figurez-vous que j'avais emporté dans mes bagages l'ouvrage de Didier Decoin, qui était, on peut dire, un véritable viatique pour la circonstance. J'ai visité dans tous ses recoins la ville principale de ce Kansai qu'on appelle Kyoto. Kyoto du nom du palais qui aujourd'hui encore occupe le centre de la ville, le Kyoto Gosho, c'est-à-dire le palais impérial. Alors, pour tout vous dire, il y avait plusieurs palais à Kyoto et tout ça a été tellement remanié au fil des siècles qu'on ne sait plus très bien selon les visites où l'on se trouve. Autrefois, à son apogée, quand je parle de l'apogée de Kyoto, c'est 9e, 10e, 11e et 12e siècle. Le nom de la ville était Heian-kyō. C'est là que se dressait la capitale du Japon depuis que l'empereur y avait établi ses quartiers en 794. Il fait venir la cour impériale. C'est la fin de la période dite Nara. Alors tout à l'heure, Vanessa va nous faire visiter Kyoto. Dites-vous qu'avec près de 2000 temples, certains sont vraiment tout petits, hein, bien entendu, ce ne sont pas tous des temples gigantesques, 1700 temples bouddhiques et 700 sanctuaires shinto. D'ailleurs, très intéressant de faire la distinction. Pour tout vous dire, lorsqu'on est au Japon et qu'on ne pratique aucun de ces deux cultes, il est très difficile de faire la différence. Mais enfin, tout de même, les temples bouddhiques ont un caractère, j'allais dire, plus international, plus directement chinois. Quant aux temples shinto, qui eux sont peuplés des divinités locales, ils présentent un air plus directement japonais, plus traditionnel, si je puis dire. Des palais, des ponts, des jardins. Vous savez que les jardins japonais sont d'un raffinement inouï, d'une symbolique passionnante. L'architecture de Kyoto est passionnante, son urbanisme est assez extraordinaire. C'est le centre culturel du Japon. Et d'ailleurs, un certain nombre des grands temples dont nous parlerons tout à l'heure ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO sous le nom de monument historique de l'ancienne Kyoto. Alors, il s'est passé l'année dernière une chose assez extraordinaire, puisque deux communiqués du gouvernement et, avec ces communiqués du gouvernement, une propre déclaration de l'empereur en personne ont laissé entendre que Kyoto pourrait redevenir la capitale du Japon. C'est quand même assez extraordinaire ce qui se passe. Vous savez qu'il y a eu pas mal de capitales dans ce Japon au fil de l'histoire, mais le fait que Kyoto, c'est-à-dire la ville traditionnelle, la ville de la culture, puisse redevenir éventuellement capitale officielle, à la place de Tokyo donc, capitale plus commerciale, j'allais dire,
moderne.
Ou industrielle, oui. Osaka aussi est une grande puissance économique, mais le fait que Kyoto puisse redevenir la capitale du Japon, en dit long sur l'état d'esprit actuel des Japonais. Et il n'est pas rare, quand vous vous promenez aujourd'hui dans les rues de Kyoto, de croiser des familles entières habillées dans le costume traditionnel. Ce qui veut dire que, pour peu que vous soyez le long de la rivière, avec tous ces extraordinaires saules pleureurs, toutes ces maisons sculptées qui ont été rétablies dans leur forme traditionnelle, pour peu que vous croisiez des gens habillés en costume traditionnel, je vous assure que vous pourriez vous croire au XVIe ou au XVIIe siècle. C'est assez étonnant. Alors, pour le moment, les choses ne sont pas encore décidées. Pour le moment, je vous précise que Tokyo est toujours la capitale officielle du Japon. Heian Kyo va rester le cœur battant de l'Empire pendant toute l'époque de Heian, donc jusqu'en 1185, après quoi la montée en puissance du clan Minamoto va asseoir la primauté des shoguns sur les empereurs, et avec le shogunat, le pouvoir va émigrer vers Kamakura dans un premier temps, avant de s'en aller beaucoup plus loin. Je me rends compte quand même qu'il faut, pour rendre tout ça cohérent et compréhensible, que je vous résume rapidement l'histoire japonaise. Dites-vous que le régime impérial s'est mis en place sous la période Yamato, on est là entre 250 et 700 de notre ère. C'est le début d'un véritable état avec un prince, un régent, comme on a nous l'habitude de le dire en français, le terme est délicat parce que c'est une sorte plutôt de premier ministre, c'est une sorte de gouvernant qui est là juste à côté de l'empereur, et puis une cour impériale qui va aller constamment croissante. Le bouddhisme est introduit au 5e et 6e siècle, d'ailleurs ce sont des moines chinois essentiellement et coréens qui vont introduire ce bouddhisme. Ça ne liquide pas pour autant les cultes locaux, d'où la permanence et d'où le maintien du shintoïsme, c'est-à-dire de ce culte shinto. Il est évident que l'influence d'un certain nombre de dynasties chinoises, et notamment des Tang, sur le Japon est considérable. Et quand vous êtes au Japon, vous vous rendez compte de l'incroyable permanence d'un certain nombre de types chinois. En fait, le Japon, contrairement à ce qu'on a souvent l'habitude de dire, le Japon n'est pas l'extrême Occident. Il est bien une forme particulièrement raffinée de la culture chinoise, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Tout le 8e siècle, l'époque de Nara, est marquée par le développement des mythes, des légendes qui vont fonder cette très vieille dynastie régnante, puisque l'actuel empereur est le descendant des empereurs de l'époque. Vous imaginez ça ? On fixe une capitale où l'empire s'installe, et puis donc arrive cette époque Heian, 4 siècles d'or de 784 à 1185. Ça, c'est la période de paix, de développement des arts. Heian, après tout, veut dire la paix. Un nom quand même assez trompeur. Vous allez voir que pendant toute cette période Heian, il y a eu en vérité beaucoup de guerres. Mais c'était des guerres tellement raffinées que, vues d'un peu loin, elles pourraient presque passer pour du théâtre.
De Ma mère loi, impératrice des pagodes de Ravel à l'instant sur Europe 1, interprété par le London Philharmonic Orchestra. Alors vous nous emmenez cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire du Japon médiéval. Nous sommes au cœur de cette période Heian, et vous nous l'avez dit il y a quelques instants, Heian signifie la paix, et pour autant, nous ne sommes pas en période de paix sur l'archipel.
Non, il ne faudrait pas croire que le tableau soit parfaitement idyllique. Il y a eu des périodes de paix, et d'ailleurs, ça dépend de quelle région on parle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'archipel n'est pas encore pleinement unifié à cette époque-là. Et quand vous vous promenez dans le Japon, vous vous rendez compte que les vallées sont très encaissées, qu'il était assez facile de maintenir un pouvoir local contre le pouvoir central. Et ce pouvoir central, il va mettre des siècles et des siècles à s'imposer sur l'ensemble du Japon. Et l'on est dans une époque féodale, marquée par des affrontements, notamment des affrontements de clans locaux, avec des espèces de seigneurs de la guerre, si je puis tenter cet anachronisme, des seigneurs qui se font la guerre et qui se la font rudement. Alors, venons à Heian Kyo, donc dans cette future ville de Kyoto, où règne donc un empereur, mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'autour de l'empereur, un certain nombre de hautes personnalités ont en vérité les rênes du pouvoir, et notamment un clan particulier qui s'appelle le clan Fujiwara, qui exerce en réalité le pouvoir, et particulièrement pendant les périodes de régence au Xe, XIe siècle. Les empereurs à ce moment-là sont un peu, disons-le, des empereurs fantoches. Ce qui est assez extraordinaire avec les Fujiwara, c'est qu'ils ne prennent pas véritablement le pouvoir. Ils ne se mettent pas à la place de l'empereur. Ils ont compris qu'il était utile d'avoir tous les signes du pouvoir réunis sur la personne d'un empereur, et qu'en vérité, la réalité du pouvoir s'exerçait dans l'ombre, à l'abri des regards. Leur façon de gouverner pourrait presque être un modèle pour bien des gouvernements dans le monde. Nous en parlerons tout à l'heure avec Didier Decoin. Alors, ce clan Fujiwara, il va dominer le gouvernement du Japon de 794 jusqu'au règne de l'empereur Kosanjo. Kosanjo monte sur le trône en 1068. Il faut vous dire que ces princes Fujiwara, qui au début étaient des ministres simplement, et puis des régents en période de minorité, se sont peu à peu instaurés comme vice-empereurs en quelque sorte. C'était la puissance derrière le trône et ça a duré comme ça pendant des siècles, sans supplanter, je précise bien, la dynastie impériale. L'influence procède par mariage, notamment dans la famille impériale, ce qui fait que les épouses des princes et des empereurs sont souvent des femmes issues du clan Fujiwara. Les chefs de la maison Fujiwara sont le beau-père, le beau-frère, l'oncle, le grand-père maternel de l'empereur. Et ce clan va donc dirigé jusqu'au règne de l'empereur Go-Sanjo, qui est le premier empereur depuis très longtemps dont la mère ne soit pas issue du clan Fujiwara, comme quoi ils avaient eu raison quand même de faire très attention, parce que à partir du moment où un empereur règne qui n'a pas de sang Fujiwara dans les veines, eh bien, il va leur mener la vie dure. Cet empereur a une forte personnalité, hein, Go-Sanjo. Il va mener des réformes qui diminuent peu à peu l'influence de ce clan. Alors, les Fujiwara, voyant leur pouvoir disparaître, vont susciter ici et là dans le Japon un certain nombre de soulèvements. Ce sont des rébellions très importantes. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quel est l'argument, j'allais dire, des Fujiwara? Quel est l'instrument de leur rébellion? La fiscalité, bien entendu, c'est toujours la même histoire. Donc, ils vont essayer de soulever le Japon en dans toute la fin du XIIe siècle. Seulement, il y a un clan local, un clan de guerriers très puissants, les Minamoto, qui vont finalement détruire la puissance des Fujiwara. Ce clan Minamoto est vainqueur d'un autre clan, les Taira, en 1195. Et là, on voit s'instaurer une sorte de dictature militaire, si vous me passez l'expression. Le shogun établit un gouvernement autoritaire à Kamakura. Les samouraïs, si vous voulez, prennent le pouvoir politique, qui autrefois était le pouvoir des Fujiwara à la cour de Kyoto. C'est le système du gouvernement shogunal, le bakufu en japonais. Et à partir de là, on peut dire que le pouvoir échappe définitivement aux empereurs. Ce sont maintenant les shoguns qui vont gouverner le Japon. Il y aura un autre shogunat très puissant, celui des Ashikaga, au 14, 15 et 16e siècle. Il faudra attendre 1590 pour que le Japon soit totalement unifié par un autre grand guerrier, très célèbre là-bas, qui s'appelle Toyotomi Hideyoshi. Et ce Hideyoshi va établir définitivement le pouvoir shogunal. Le shogun est au pouvoir alors que l'empereur n'a plus alors vraiment qu'un rôle tout à fait symbolique. Hideyoshi est lui-même battu par un certain Tokugawa Ieyasu, et alors ce Tokugawa instaure le grand shogunat Tokugawa avec une nouvelle capitale qui elle est beaucoup plus au nord et à l'est, c'est Edo, qui deviendra plus tard Tokyo. Voilà l'origine de l'actuelle capitale Tokyo. Alors, ça, c'est l'époque qu'on appelle l'époque d'Edo, 17e, 18e siècle. Grande période, autre âge d'or, mais un âge d'or à l'opposé de la période qui nous intéresse, Heian, puisque c'est un âge d'or fondé sur l'autorité militaire et sur la fermeture pure et simple du pays. Les échanges, notamment avec la Chine, bien sûr, mais notamment avec l'Occident, vont être purement et simplement stoppés pendant deux siècles. Et il va falloir attendre Meiji, l'ère Meiji, à partir de 1868 pour que le pays s'ouvre de nouveau à l'Occident. Alors là, quand je dis s'ouvre à portes grandes ouvertes sur l'Occident, avec une modernisation à grand train du pays. Le système féodal à ce moment-là sera aboli. Vous savez que les samouraïs vont tenter de se révolter, mais qu'ils seront mis au pas par la nouvelle armée moderne de l'empereur Meiji. Le Japon s'industrialisera. Bref, nous sommes presque déjà dans le Japon actuel.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand.
C'est un vrai voyage dans le temps que vous nous proposez cet après-midi, Franck, puisque nous découvrons grâce à vous le Japon. Et Yann, nous sommes au cœur de la période médiévale.
Exactement,
du Japon.
Exactement, on est au 9, 10, 11, 12e siècle. Le roman de Didier Decoin se situe au 12e siècle. Vous savez que c'est une période qui a marqué définitivement le Japon. On peut dire que la culture japonaise est restée d'une certaine manière une culture Heian. Les paroles de l'actuel hymne national, Kimigayo, sont écrites durant cette période, de même que le roman fondateur de la culture japonaise, le Dit du Genji de Murasaki Shikibu, qui est un des premiers romans en japonais, écrit par une auteure assez extraordinaire. Ce Dit du Genji, c'est le grand classique. Vous savez que c'est Borges qui disait que cet écrit n'avait jamais été égalé dans la littérature mondiale. Il est écrit au début du XIe siècle par cette dame Murasaki, une aristocrate qui vit à la cour impériale de Heian Kyo. C'est René Siffer qui a travaillé pendant longtemps sur la traduction de ce Dit du Genji. René Siffer nous dit « Pas un instant, je n'ai eu le sentiment d'un véritable dépaysement, ni dans le temps, ni dans l'espace, mais au contraire, me hantait l'impression constante d'être engagé dans une aventure mentale étonnamment moderne. Il m'a semblé découvrir des situations, des analyses, des dialogues qui pouvaient avoir été imaginés hier, si ce n'est demain. » Ce roman fleuve retrace donc le destin politique et la vie amoureuse d'un prince, donc le Genji. Il vaut autant par la vigueur de la narration que par l'évocation de l'état d'âme japonais, si je puis dire, que l'on retrouve si brillamment perçu et rendu dans l'ouvrage de Didier Decoin. Je vous lis, si vous le voulez, quelques phrases de ce roman. On est au début, le mari de celle qui va être l'héroïne du roman vient de se noyer, et voilà ce qu'écrit Didier Decoin. Si le rangement de la maison se fit en quelques heures, il fallut 2 jours à Miyuki pour la récurer à fond. La faute en incombant à l'industrie qu'on y pratiquait, la pêche et l'élevage de poissons admirables, principalement des carpes. Quand il remontait de la rivière, Katsuro ne prenait pas le temps de se dépouiller de ses vêtements gorgés d'une vase gluante dont il éclaboussait les murs à chaque geste un peu précipité qu'il faisait. Il n'avait qu'une hâte, libérer au plus vite les carpes qui s'agitaient dans leurs nasses d'osier et qui risquaient de perdre des écailles ou de s'amputer d'un barbillon, auquel cas elles auraient perdu toute valeur aux yeux des intendants impériaux. Les lâcher dans le vivier, creuser à leur intention sur le devant de la maison, un bassin à même la terre, peu profond, rempli à ras-bord d'une eau que Miyuki, pendant l'absence de son mari, avait enrichie de larves d'insectes, d'algues, de graines de plantes aquatiques. Après quoi, assis sur ses talons, Katsuro restait plusieurs jours d'affilée à observer le comportement de ses captures, surveillant plus particulièrement celles qu'il avait d'emblée jugées dignes des étangs de la ville impériale, cherchant des signes montrant qu'elles étaient non seulement les plus attractives, mais également assez robustes pour supporter le long voyage jusqu'à la capitale. Katsuro n'était pas très bavard, et quand il s'exprimait, c'était davantage par allusion que par affirmation, donnant ainsi à ses interlocuteurs le plaisir d'avoir à deviner les perspectives lointaines d'une pensée inachevée. Le jour de la mort de son mari, lorsqu'on eut déversé dans le vivier les 5 ou 6 carpes qu'il avait pêchées, Miyuki s'était comme lui accroupi au bord de la fosse, se laissant hypnotiser par la ronde des poissons qui décrivaient des cercles anxieux à la façon de prisonniers découvrant les limites de leur geôle. Bonjour Didier Decoin. Elle va s'intéresser de très près aux carpes, votre Miyuki. Elle va elle-même décider de les sélectionner et de les transporter jusqu'à la cour impériale.
On est un petit peu obligé de le faire dans la mesure où c'est ce commerce qui permet au village d'exister, de vivre. C'est un village de pauvres paysans. Ils n'ont rien d'autre à manger qu'un petit peu de riz, des vagues céréales. Il faut savoir qu'à cette époque, la chasse est interdite, puisque la consommation d'animaux est interdite par le bouddhisme.
C'est assez étonnant, hein, ça. On est
oui,
déjà
la seule chose qu'ils puissent manger, grâce à une astuce qui m'a beaucoup amusé, c'est le sanglier. Parce qu'ils les avaient baptisés baleine de mer. Alors, à partir de ce moment-là, les prêtres du bouddhisme ne pouvaient plus rien dire. Mais sinon, ce sont des gens qui sont extrêmement pauvres. Alors, le fait d'emmener les poissons à la ville impériale va permettre à Miyuki de rapporter, non pas de l'argent, parce qu'il n'y a plus de monnaie déjà à cette époque qui circule, mais de la soie, du métal, enfin des choses qui vont être renégociées ensuite et permettre au village de survivre.
C'est un roman initiatique que vous avez écrit.
Oui, je me suis d'ailleurs moi-même initié, si je puis dire, à la culture. J'ai mis des années à l'écrire, je ne connaissais pas le Japon. En tout cas, la période que vous avez racontée, la période Heian, était quelque chose que j'ignorais complètement. Moi, j'avais plutôt une vision qui était celle, à partir du shogunat
Oui, c'est ça, la période plus récente, Tokugawa, disons.
Voilà, exactement. Mais j'ai découvert cette période Heian avec fascination parce que, dans le fond, le premier siècle, c'est aussi, chez nous, celui de Charlemagne. Et nous vivons dans des châteaux qui sont assez immondes. Ils sont très beaux, mais ils sont glacés. Il y a de l'humidité partout. Et puis, on se bat pour un rien. Et là-bas, au contraire, on est dans une espèce de bulle de raffinement extrême. Et c'est l'opposition de ces deux mondes, le nôtre et le leur, m'a tout à fait enthousiasmé.
C'est vrai que la chronologie est stupéfiante. Quand on voit comment vivent les Carolingiens en Occident et qu'on voit comment on vit l'extraordinaire modernité, le raffinement extrême, la propreté inouïe de cette cour Heian, ça donne des frissons tout simplement. On va essayer de s'y plonger avec vous dans un instant.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand.
Nous sommes au cœur de l'histoire du Japon médiéval cet après-midi sur Europe 1 et nous allons plus loin puisque vous recevez, Franck, pour nous parler de cette époque, Didier Decoin, l'écrivain et auteur du très beau Bureau des jardins et des étangs que l'on vous recommande et qui est paru chez Stock.
Vous vous passionnez pour le Japon depuis combien de temps, Didier?
Ou alors, tout enfant, non, vraiment préadolescent. Je ne sais pas pourquoi je m'étais pris de passion pour la guerre du Pacifique.
Ah oui. Là, on est assez loin de l'époque Heian, là, oui.
Ben oui, on est très très loin.
Quoi qu'il y a les kamikazes qui essayaient d'une certaine manière de renouer avec une
guerrier, etc. Mais ce qui m'avait étonné, c'est que je comprenais la mentalité américaine. Pourquoi ces gens étaient allés se battre à l'autre bout du monde pour défendre quelque chose. Je comprenais pas pourquoi les Japonais, qui est un peuple raffiné, je le savais, arrivaient à des extrêmes de violence. Et bon, les bébés attrapés au bout des baïonnettes, c'est quand même eux qui avaient inventé ça. Et donc, j'ai voulu comprendre. Et en voulant comprendre, j'ai pris le moyen le plus simple, c'est-à-dire j'ai lu.
Et voilà.
J'ai lu énormément, et j'ai notamment lu le dit du Genji, dont vous parliez tout à l'heure, de Murasaki Shikibu. Et ce livre m'a fasciné, parce que je me suis dit, mais cette époque-là, je ne la connais pas du tout. Alors, il y a Murasaki, mais il y a d'autres femmes formidables. Il y a toute une pépinière. On peut même dire d'une certaine manière...
C'est dit, comme on dit, on les appelle les dits, c'est-à-dire ce sont des poèmes romanesques en quelque sorte, ont été écrits en grande partie par des femmes qui étaient de grandes aristocrates en fait.
Oui, pratiquement uniquement d'ailleurs par des
uniquement
femmes.
Même, oui.
Pour deux raisons. La première, c'est qu'elles s'ennuyaient. On les posait quelque part. Elles avaient 15 robes sur elles pour arriver à obtenir une certaine couleur qui était introuvable dans la nature.
Couleur diaphane.
Voilà. Alors elles empilaient 15 épaisseurs de soie sur leur corps. Il faut imaginer le poids que ça représentait. Donc une fois qu'elles étaient posées dans un salon, elles n'en bougeaient pratiquement plus. Et alors elles papotaient entre elles et elles se racontaient ce que se racontent les jeunes femmes, même d'aujourd'hui, c'est-à-dire des histoires d'amour. J'ai rencontré un bien bel homme ce matin dans les coursives, etc. Et l'autre raison, c'est que l'écriture si difficile, les idéogrammes complexes qui venaient de Chine avaient été simplifiés et qu'une nouvelle manière d'écrire était à la disposition de ces femmes. Donc elles s'étaient jetées dans l'aventure. Et beaucoup de gens pensent aujourd'hui que le roman tel que nous le concevons à notre époque n'est pas né de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, mais est né de cette époque-là. Parce que ce ne sont pas des héros guerriers Le prince Genji n'est pas un combattant. Il est même assez pleutre d'une certaine manière, même devant les femmes. Mais
C'est un prince de cour.
Ce sont des rôles à Marivaux, quelque part. Et c'est vraiment... Moi, je trouve que Marivaux, c'est l'inventeur, quelque part, aussi, du roman sentimental qui nous fait rêver. Et bien, à cette époque-là, voilà, ces femmes-là avaient inventé une manière d'écrire.
Or, cette littérature médiévale japonaise, elle est encore très vivante dans la culture japonaise aujourd'hui. Les élèves l'apprennent, lisent ces grands textes à l'école et... c'est une littérature qui est traduite, ça il faut le souligner, c'est important parce que vous n'écrivez pas, vous ne parlez pas le japonais, vous.
Hélas, non. C'est que j'ai essayé honnêtement parce que j'ai une passion dans Kurosawa. Et bon, voilà, je voulais comprendre le japonais. Bon, mais c'est impossible.
C'est vrai que Akira Kurosawa est un très grand, est une sorte de d'auteurs de tragédies et de drames épiques des temps modernes à travers le cinéma.
C'est le Shakespeare japonais d'aujourd'hui,
c'est ça.
Oui, je trouve.
Il y avait Mishima aussi dans un autre registre qui a essayé de renouer avec la culture des samouraïs, avec ce qu'il appelait l'éthique des samouraïs, Bushido, la voix du guerrier.
La voix du guerrier. Ce que j'aime chez Mishima, c'est sa sensualité extrême. Oui. Alors ça, il est merveilleux. Et puis aussi sa sincérité et ses fantasmes. Le japonais, par définition, est très pudique et cache ses mouvements. Mishima avoue tout ce qui est en lui, ce qu'il pense être une part d'obscurité, une part de pénombre, et c'est là où il est extraordinairement sympathique.
C'est aussi l'éloge de l'ombre, d'une certaine manière.
Absolument.
Ça, il faut expliquer à nos auditeurs en deux mots cette fascination des Japonais pour la pénombre et pour tout ce qui doit être mis dans l'ombre, en quelque sorte. La grande lumière est considérée comme vulgaire au Japon.
Oui, elle est vulgaire. Elle n'est en fait, comment dirais-je, la propriété que de l'empereur lui-même, parce qu'il est le fils du soleil. Alors lui a droit à la grande lumière. Il y a d'ailleurs cette particularité architecturale intéressante à Yankyo, qui était que le palais impérial avait été construit de telle façon que quand l'empereur quittait ses appartements pour se promener dans ses jardins, alors il avait évidemment un itinéraire obligé, si je puis dire, il n'était jamais touché, quelle que soit l'heure du jour à laquelle il se promenait, il n'était jamais touché par l'ombre, ni d'un bâtiment, ni d'un mur, ni d'un arbre. Vous vous rendez compte, le boulot pour les architectes d'avoir prévu une espèce de calendrier perpétuel, lui seul a droit à la grande lumière. Et le reste, effectivement, on est dans le clair-obscur. Mais les sentiments sont eux, vrais et purs. Le Genji montre bien qu'on ne se cache rien. Le Genji, c'est une sorte de Casanova sympathique, en fait.
Puisque nous sommes dans la littérature, que pensez-vous d'auteurs beaucoup plus récents comme Murakami, par exemple, qui est devenu maintenant l'emblème de la littérature japonaise contemporaine?
J'aime beaucoup Murakami parce qu'il a inventé, enfin, il ne l'a pas inventé, mais il a pratiqué cette intrusion du fantastique, de l'irréel dans l'hyper conventionnel. Si on parle, par exemple, de 1Q84, son dernier chef-d'œuvre, ça commence par un embouteillage tout bête dans Tokyo, une jeune femme quitte un taxi. On est dans le concret, dans le trivial presque, etc.
Puis très vite.
Un certain nombre de pages plus loin, elle va ouvrir la fenêtre de sa cuisine et elle voit qu'il y a dans le ciel deux lunes. Mais ça ne la fait pas hurler de... Moi, si je vois deux lunes demain dans le ciel, je ne sais pas, j'appelle Europe 1 en disant « Attendez, j'ai quelque chose d'inouï, il faut le partager avec vous ». Elle, pas du tout. Et c'est Murakami, dans tous ses livres, glisse comme ça un petit peu du fantastique. Mais ce fantastique, il est propre à l'âme japonaise. Il y a des fantômes partout dans l'histoire du Japon. Ils ont un légendaire qui continue, le plus extraordinaire à mes yeux étant le kappa. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré à Tokyo.
Non.
C'est un personnage, c'est un monstre, un petit monstre, grand comme un garçonnet, qui habite les rivières. Alors, il est palmé, évidemment, pour se déplacer dans l'eau. il est très vilain. Il a un peu l'air d'un ornithorynque. Je ne sais pas si les auditeurs voient ce qu'est un ornithorynque. Ce n'est pas très, très joli à voir. Même si Giraudoux, à un moment, nous raconte que Suzanne, son héroïne, embrasse un ornithorynque. Et donc, il vit dans les rivières. Et il a une passion, l'ornithorynque. Une passion, une gourmandise, je dirais.
Le capa, en l'occurrence.
Le capa, oui. Le capa. Oui. C'est de dévorer le foie des êtres humains. Et pour ça, il a un système qui est un peu spécial. Il a, au bout de ses mains palmées, il a des ongles qui sont coupants comme des lames de rasoir. Alors, il introduit une main dans l'anus de sa future proie, mmh. et la main remonte à l'intérieur jusqu'à trouver le foie, qu'il arrache, et il le mange tout chaud, tout palpitant, etc. C'est le régal du capa.
Finalement, alors, si on veut échapper...
Oui, finalement, c'est peut-être mieux. Ouais, que
Franck,
vous
si
pas
vous
vu.
Voulez échapper au capa, je donne le truc parce qu'il est, il est irrésistible, il faut avoir un concombre avec soi.
Ah, voilà.
Vous marchez le long de la rivière, vous voyez un capa qui vient vers vous, vous savez ce qui va vous arriver. Immédiatement, vous sortez un concombre, vous dites « concombre ». Il faut apprendre le mot en japonais, je ne le connais
oui,
pas, mais ça
mieux.
Se trouve dans les dictionnaires. Concombre. Et le capa abandonne tout projet de méchanceté, mais il se jette sur votre concombre.
C'est l'ail pour les vampires, oui. en fait.
Voilà, c'est l'ail pour les vampires.
Vous êtes bien sur Europe 1 cet après-midi, et
oui.
cette émission est parfaitement sensée. Nous recevons Didier Decoin.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand.
Pour comprendre l'histoire du Japon, il faut se replonger au cœur du Japon médiéval. Et bien, c'est ce que nous vous proposons cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité, Franck Didier Decoin. Il est écrivain, auteur du Bureau des Jardins et des Étangs paru chez Stock.
Je signale pourquoi vous avez ce sourire, vous riez, parce que j'étais en train d'essayer de m'extirper d'un petit
pendant
vêtement
pause...
japonais d'ailleurs,
exactement.
En l'occurrence. Parce que ces espèces de petites doudounes sans manches là ont littéralement envahi la planète depuis le Japon. Je ne citerai pas la marque, mais chacun aura compris de quoi je parle. Alors, Didier Decoin, je vous propose de revenir à un autre Japon, celui du XIIe siècle, celui de cette ère Heian, dans cette cour extraordinaire du palais de Tokyo, où tous les raffinements se sont réunis, se sont rassemblés. C'est tout à fait extraordinaire. Dans tous les domaines de la perception, il faut que tout soit idéal. Les couleurs, les sons... les goûts, et bien sûr pour vous les parfums, puisque vous accordez une grande importance aux parfums.
Je dirais même plus que les parfums, les odeurs en général, mm-hmm. parce que le parfum, d'emblée, c'est quelque chose de raffiné mm-hmm. et d'attractif. Là, ce sont les odeurs, et toutes les odeurs sont séduisantes pour le japonais de cette époque-là. Je pense d'ailleurs aussi pour le japonais d'aujourd'hui, qui n'a pas peur de respirer des odeurs sui generis, qui lui évoquent des bons... Enfin,
mm-hmm. Elles ressemblent à quoi ces odeurs?
Ben, ce peut être n'importe quoi. L'odeur de la sueur, par exemple, est une chose qui nous fait fuir. Enfin, nous fait fuir.
Qui fait fuir les Occidentaux.
Oui, enfin, on dit que ça sent pas bon, on met des déodorants. Les Japonais, non. Pensez qu'à une certaine époque, je crois que c'est terminé aujourd'hui, il y avait des distributeurs de culottes usagées. Automatique, mettez une pièce et tombez une culotte de femme usagée, volontairement, avec des traces. Et bon, je ne dis pas qu'ils passent leur temps à renifler ça, mais il y a chez le japonais une sorte de fascination pour tous les sens. Avec peut-être moins pour la musique, moins pour le goût.
Oui. Quoique la musique, la hauteur des chutes d'eau, le vent dans certains feuillages, etc. Tout ça fait partie. Il y a des mots en japonais pour désigner chacun.
Dès qu'elle devient naturelle, la musique les fascine.
C'est ça.
Pour le goût aussi. Par exemple, vous parliez, Franck, tout à l'heure du goût des Japonais pour la pénombre. Il faut dire que les pâtisseries japonaises semblent pour nous n'avoir aucun goût. C'est fadasse. Mais on vous dira, mais il faut les manger dans la pénombre.
Ah oui.
Il faut pas voir ce que vous mangez. Il faut fermer les yeux et surtout être dans le noir. Et ça prend tout de suite une autre saveur beaucoup plus poussée.
Le Japon dont vous nous parlez n'est pas encore tout à fait coupé du monde. Mais de toute façon, peu de gens s'aventurent jusque-là. Sauf des Chinois et des Coréens, quand même.
Coréens,
oui. Beaucoup. Les pirates, notamment.
Oui, c'est pas dans. Les Chinois viennent pour le commerce. Mm-hmm. Les Coréens, ils viennent pour piller, essentiellement. Mais c'est peu par rapport à l'étendue du monde. Et surtout, les Japonais accueillent avec froideur ces gens-là. Bon, les Coréens les rejettent et les Chinois, ils évitent les ambassades et l'emploi. Parce qu'ils sont persuadés de détenir et ils n'ont pas forcément tort. Regardez, ils sont tellement en avance sur le raffinement. Moi, je crois qu'il n'y a pas une époque dans l'histoire de l'humanité, je ne sais pas seulement l'histoire du Japon, il n'y a pas une époque qui ait été plus raffinée, plus que cette époque, que ces quatre siècles de l'histoire japonaise. L'époque Heian, c'est une bulle, c'est une parenthèse enchantée. Nous battions avec des épées, des masses d'armes, etc. Eux se battaient avec des poèmes, les tournois de poésie.
Incroyable.
C'est incroyable. Avec des tournois de parfums, l'arrangement des fleurs. Alors, bien sûr, il faut pas perdre de vue que ça se situe à Kyoto. À Heian-kyo. Le reste du Japon...
Et évidemment, le Japon n'est pas encore tout à fait unifié.
Non,
il y a déjà des luttes de clans très importantes qui vont faire que croître et embellir. Ce sera bientôt la grande époque des samouraïs. Et puis, le shogunat va instaurer un régime nettement moins amène, disons-le. Mais on n'en est pas encore là.
Non, mais
ce que vous racontez,
paysan,
c'est juste avant.
Le paysan japonais de l'époque de comme ça, Heian, mm-hmm. lui n'est pas raffiné à ce
non, bien
au,
sûr.
Au même niveau. Hein. Ce sont des gens qui sont extraordinairement pauvres. Il y a une famine endémique qui règne. Les maladies ne sont pas traitées.
On a l'impression que la cour est coupée de tout ce monde.
Elle l'est, absolument.
Elle vit dans une bulle d'une forme de perfection, disons les choses.
Oui, mais elle ne le partage pas.
Perfection esthétique, perfection éthique. Il y a aussi cette dimension morale.
Oui, enfin, c'est une morale vue à l'aune de ce Japon. Le Genji dont on parle, il est totalement amoral, lui. Mais pour autant, il est donné comme un personnage exemplaire.
Est-ce qu'on peut dire que votre ouvrage est un hommage à votre maître, Akawabata ?
Alors, j'aimerais beaucoup pouvoir dire ça. Mais vous savez, est-ce que je peux offrir à Kawabata un hommage aussi modeste, dans le fond ? Kawabata, c'est, je pense, le plus grand écrivain, le plus grand romancier que nous ayons jamais eu, nous les hommes, pas simplement eux les Japonais. Les belles endormies, le lac, le grondement de la montagne, etc. Pour moi, sont des chefs-d'œuvre. J'ai dans mon bureau, derrière moi, une image de Kawabata et qui me regarde par-dessus mon épaule. Et je dois dire que de temps en temps, je me tourne vers lui en lui disant « Est-ce que c'est bien un maître ?» Et j'ai l'impression que parfois, il n'est pas très content de ce que je fais. Donc, mais oui, alors je vais dire c'est un sacrifice propitiatoire que je lui offre en écrivant ce livre.
Eh bien, nous allons participer, si vous le voulez bien, au sacrifice. Le Bureau des Jardins et des Étangs. Publié chez Stock, c'est ce grand livre de Didier Decoing. Ce n'est pas un livre modeste, c'est un livre humble, nuance.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand.
Après une plongée dans l'histoire du Japon, nous allons maintenant sur place et nous allons découvrir le Kansai avec notre guide. C'est Vanessa Zah que vous retrouvez tous les week-ends dans les escapades culturelles de la matinale de Sébastien Guyot le samedi et le dimanche sur Europe 1.
Bonjour Vanessa.
Bonjour Franck.
Vous nous emmenez donc au cœur du Japon culturel, dans ce Kansai qui est donc la partie méridionale de la principale île Honshu et... Vous nous emmenez précisément à Kyoto. On pourrait peut-être dire quand même un mot d'Osaka, de Nara, Shiga, etc. Enfin, toutes ces...
Oui, en fait, le Kansai, ça regroupe Kyoto, Nara, Yogo, Osaka, Wakayama, Shiga. C'est très large, donc c'est très compliqué de reparler de ce Japon médiéval. Donc il fallait faire évidemment un choix. Vous dites qu'on part au cœur, justement, donc du Kansai à Kyoto. Il y a même un adage qui dit que le Japon est comme un être humain dont la tête est Tokyo, l'estomac Osaka et le cœur est Kyoto.
Et
voilà.
Peut-être que le fait que les Japonais parlent de plus en plus sérieusement, l'empereur en personne l'a dit l'autre jour, on parle de plus en plus de redonner à Kyoto la primauté, de faire de Kyoto la capitale, ça prouve que le pays est en train de passer de l'esprit au cœur.
De l'esprit au cœur, exactement. Vous avez raison en disant capitale, ça a été quand même pendant 11 siècles la capitale. D'ailleurs, Kyoto, littéralement, veut dire ville capitale. Mm-hmm. Voilà.
Alors, paix, tranquillité, ça c'est Heian. Hein.
Exactement, et puis c'est vrai que quand vous vous retrouvez en fait dans Kyoto, vous êtes comme ça enveloppé dans cette ville d'eau avec des sonorités très douces, avec des temples à chaque coin de rue, et puis cette rivière qui joue, cette rivière Kamo qui joue un rôle important quand même dans cette ville.
Un mélange d'extrême modernité avec aussi les problèmes que ça peut poser en termes de bruit, vous avez ces espèces de paquets de fils électriques partout qui encombrent les rues, c'est assez moche, ça faut bien dire. qui est. Et puis alors à côté c'est de ça, un petit ruisseau qui serpente au milieu de l'asphalte, on ne sait pas d'où il sort, avec encore de la boue, des roseaux et des arbres sauvages. Ils sont incroyables, les Japonais. Ils sont capables de garder la campagne en plein milieu de la ville.
Un milieu mélange traditionnel et en même temps de côté complètement cacophonique.
C'est ça.
Voilà. Et c'est vrai qu'il faut prendre ses lunettes pour essayer de ne voir qu'à travers le prisme en fait du Japon justement médiéval traditionnel. Et c'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu peut-être ensemble, peut-être
alors,
deux, trois endroits.
Le château impérial a disparu, en tout cas, il n'a pas tout à fait disparu, mais il n'est plus du tout ce qu'il était.
Non.
En revanche, il y a toujours le château shogunal qui s'appelle le château de Nishōjō,
voilà.
Qui est au cœur même de Kyoto.
Au centre-ville donc de Kyoto, qui a été quand même en effet le château du shogunat pendant 15 générations. Mm-hmm. Alors c'est un château qui a un style architectural très raffiné, hein, du style Momoyama, et il a plusieurs particularités. Il est unique déjà pour quelque chose qui va vous faire sourire, mais son parquet chantant, quand vous allez visiter en effet ce château, vous comprenez que le shogun a fait poser un parquet, ce qu'on appelle rossignol, dans son couloir, pour que n'importe qui, n'importe quelle personne, que ça soit un voleur, que ça soit un assassin, s'il avait envie de rentrer, puisse être comme ça, repéré par ce petit crépitement, ce petit chant d'oiseau, ce petit chant de rossignol.
Avec toujours une architecture qui insiste sur l'intérieur-extérieur. On n'est jamais tout à fait dehors au Japon et on n'est jamais tout à fait dedans. C'est assez étonnant tout ça. On joue avec les vents, on joue avec les pluies, on sait dans quel sens elles tombent. Enfin, tout est très très raffiné. Et puis les espaces sont constamment modulaires.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est étonnant d'imaginer que dans des architectures du 14e ou du 15e siècle, on avait tous ces panneaux qui sont montés sur coulisses et qui font que les pièces changent avec des lacs d'eau. Des choses inouïes.
Et vous parlez intérieur-extérieur, on a l'extérieur qui vit à l'intérieur puisqu'on a toutes ces représentations, de ces peintures de paysages, d'animaux qui ont toutes été réalisées en tout cas pour ce château donc de Nishōjō par la célèbre école donc Kanō. Donc c'est absolument incroyable, il faut vraiment lever les yeux au ciel jusqu'au plafond, vous avez aussi des rossignols au plafond.
Alors ce qu'on visite lorsqu'on est là-bas, évidemment, ce que tous les touristes se doivent de voir, si je puis dire, ce sont les deux grands temples célébrissimes, photographiés des millions de fois, le pavillon d'or et le pavillon d'argent, en quelques mots.
Alors, donc le pavillon d'or, évidemment, qui s'appelle aussi le Kinkaju-ji, qui est recouvert de feuilles d'or, qui est entretenu régulièrement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il est construit sur trois étages et il réunit...
Une grande pagode,
et ça réunit trois styles architecturaux différents. Donc au rez-de-chaussée, c'est vraiment le style des palais impériaux. Au premier, c'est la copie des maisons de samouraï. Et au second, on est vraiment dans un temple zen. Mais le rez-de-chaussée n'est pas recouvert d'or. Il n'y a que les deux premiers étages. Et c'était un désir pour que ça se reflète encore plus
sur l'eau. On n'aura
peut-être
pas le temps de parler du temple d'argent. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces architectures sont volontairement fiché dans une nature aussi travaillée que l'architecture elle-même. C'est-à-dire qu'on a conçu les bâtiments pour qu'ils aillent avec les arbres, avec l'eau, avec les rochers. C'est inouï.
Ça dialogue et on le ressent d'ailleurs d'autant plus dans le pavillon d'argent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est vrai qu'on le ressent encore plus puisqu'il y a ce fameux jardin sec avec tout ce sable blanc qui fait que tout se réfléchit. Et puis il y a une colonne en fait de 2 mètres. Alors il y a beaucoup de légendes qui tournent autour. On dit que c'était une colonne qui était là évidemment pour faire écho au mont Fuji ou bien une colonne pour aller observer donc la lune. Et il faut absolument en fait prendre cette promenade pour monter sur les hauteurs, voir des jardins de mousse pour pouvoir contempler ce temple d'argent au milieu de tout ce paysage,
avec,
de toutes ces montagnes.
Avec ces rochers qui ont été disposés de telle manière qu'on ne puisse jamais les voir tous
en même temps.
C'est assez extraordinaire. Merci beaucoup Vanessa, il y aurait eu tellement encore à dire sur Kyoto et sur ses environs parce que la nature autour est sublime.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Et voici Lorena Martin. Bonjour Lorena.
Bonjour Franck.
J'imagine que vous nous emmenez au Japon. Vous aussi, ça vous va très bien le Japon, je trouve d'ailleurs.
J'ai mis de côté deux adresses de ryokan. Vous savez, ces auberges typiques japonaises. Autrefois, c'était des centres de relaxation pour la bourgeoisie japonaise. Aujourd'hui, c'est un type d'hébergement qui est ouvert à tous.
Alors, c'est assez amusant. Un mot sur ces ryokan, c'est que ça coûte extrêmement cher, faut dire ce qui est. Alors que le confort est spartiate, c'est très dur, hein, faut pas être trop sensible.
Exactement.
Si je puis dire.
Les chambres proposées en fait sont de grandes pièces sans cloison, dont le sol est recouvert de tatamis traditionnels.
On passe son temps à genoux par définition.
Exactement, et souvent le sol mobilier est une table basse. Les chambres sont dotées de portes coulissantes dont vous avez parlé, les shoji, et on dort sur un futon donc déroulé avant la nuit,
très dur,
et déroulé avant la nuit par les femmes de chambre qui sont en kimono.
Bien sûr, la plupart
des ryokan en fait ont un bain commun. Les femmes et les hommes se baignent, mais séparément. Et on mange dans sa chambre, en fait. Et on y mange souvent très bien.
On installe des petites tables très basses.
Voilà.
Ça est un peu étonnant pour les Occidentaux. Alors, il y a des ryokan qui ont fait des trous dans les sols pour que les Occidentaux puissent quand même s'asseoir. Parce que nous, on n'est pas habitués à déjeuner ou à dîner
à genoux. Un petit peu difficile. Et vous avez bien sûr des règles à respecter. On enlève ses chaussures à l'entrée de l'auberge et on se déplace dans les couloirs en pantoufles. Et à l'entrée de la chambre, on marche sur les têtes. Amis, pieds nus ou en chaussettes.
Bien sûr, il est surtout en chaussettes chez les Japonais.
Il y a les shukobu aussi, parce qu'on peut aussi dormir en fait dans les temples, aussi comme les ryokan, dans certains temples aussi.
Oui. Alors, vous en avez des ryokan à nous ?
J'ai mis de côté deux adresses. Je pourrais vous parler de l'un des ryokan traditionnels les plus célèbres, réputés et appréciés. C'est Hiragiya, qui se situe à Kyoto. Il a été fondé en 1818 et il appartient à la même famille depuis 6 générations. Vraiment, on est là dans une ambiance de luxe et de zen, comme vous l'avez dit.
Alors, pour le coup, je l'ai visité dans une ambiance aussi très austère.
Très austère. Et il a accueilli des écrivains célèbres, des artistes, politiciens, membres de la famille impériale. Et notamment Kawabata, dont vous avez parlé, qui considère ce ryokan comme son deuxième chez soi. Et sinon, j'avais aussi mis de côté le Oshinoya, également situé à Kyoto, et parce qu'on peut y aller en fait en bateau privé qui vous y amène, et c'est absolument sublime, d'un raffinement extrême, et c'est un mélange entre ancien, moderne, et dans une nature totalement boisée. C'est magnifique.
Encore l'éloge de l'ombre. Merci beaucoup Lorena, nous nous retrouvons demain chère Anissa.
Demain à 14h avec grand plaisir et vous allez constater que rien ne nous arrête dans le cœur de l'histoire, aucune frontière, puisque demain nous parlerons de Che Guevara.
Ah oui, non, ça change un peu d'ambiance, évidemment.